Je vous souhaite tout d'abord une excellente année de la chèvre et je vais donc tenter d'enregistrer cette capsule entre les nombreuses explosions de pétards qui animent le quartier. Dans cette septième capsule, il sera question de plusieurs bandes dessinées numériques dont vous pouvez dès à présent trouver tous les liens sur la page web de Radio Grand Papier dans la rubrique Ma vie en slash. Je débuterai par une véritable perle dans l'univers du webcomic avec le récit The Bloody Footprint de Lily Carré, paru ce 5 février sur le site du New York Times. Âgée d'une petite trentaine d'années, la dessinatrice américaine a déjà un joli parcours dans divers domaines, puisqu'elle est à la fois illustratrice, on citera ici le livre pour enfants Tippi and the Night Parade, paru chez Toon Books, réalisatrice de courts-métrages d'animation et auteur de bandes dessinées, avec les histoires de Woodsman Pete avec tous les détails paru chez Top Shelf en 2006 et en français à la Pastèque en 2008, ainsi que son roman graphique de Lagoon, paru en 2008 chez Fantagraphics et en français chez Cambourakis. On peut encore mentionner son recueil d'histoires courtes Heads or Tails, paru chez Fantagraphics en 2012. Pour The Bloody Footprint, elle réunit dans un même récit ses compétences d'illustratrice, d'auteur de bande dessinée et d'animatrice pour exploiter au mieux la donnée numérique. Lily Carré y évoque une discussion qu'elle tint avec l'une de ses amies d'enfance. Ensemble, les deux femmes se remémorent un événement de leur prime adolescence. Lors d'une soirée pyjama avec 6 ou 7 autres amies, les jeunes filles s'étaient aventurées dans une pièce en travaux dont la charpente en bois était à nu. Courant sur les planches, l'ami de Lily se blessa au pied, et quelques instants plus tard, la plaie laissera s'écouler une flaque de sang sur le linoléum de la cuisine. Seulement voilà, Lily contredit cette version de l'histoire. Elle est persuadée que c'est elle qui fut blessée. Elle se souvient parfaitement de la douleur, du fait qu'aucune de ses amies n'avait noté les gouttes écarlates laissées sur le sol jusqu'à la cuisine, et de la flaque de sang se formant progressivement autour de son pied. L'une des deux femmes s'est donc appropriée le souvenir de l'autre. Pour rendre cet aspect fluctuant de la mémoire, Lily Carré propose des dessins synthétiques au ton grisé, parfois diaphane, mais soutenus par de jolis effets de matière. Sa composition se décline en série de cases muettes auxquelles répond un texte récitatif. Texte et dessin forment donc cette charpente nue sur laquelle Lily Carré posera des sensations, des odeurs, des sons et aussi quelques boucles animées. Une bande de 3 cases présentant des planches en bois s'animera ainsi lorsqu'une paire de jambes passera soudain au travers de la 2e case, courant sur la charpente. Les jambes passeront ensuite par la 1ère case, puis la 3e et ainsi de suite. L'effet des plus sobres et pourtant des plus réussis. D'autres boucles d'animation joliment conçues émailleront ce somptueux récit sur l'expérience mémorielle. Autre artiste touche à tout, la jeune auteure américaine Sophia Foster Dimino a réalisé un très touchant Orly Comic dernièrement. Après avoir fait partie durant 4 ans de l'équipe de Google Doodle, ces fameux bandeaux titres de Google qui changent chaque jour en fonction d'une actualité, elle s'est lancée dans une carrière d'illustratrice indépendante. Son style, qui m'évoque tantôt la ligne frêle des Vermeulen ou de Stanislas, tantôt les visages géométriques de Ron Ridgway Jr., tantôt des auteurs de Nobro, le minimalisme de John Porcellino ou encore le travail de Michael Dufort sur Adventure Time, son style donc sied parfaitement au New York Times où l'illustratrice est d'ailleurs publiée. Éditant des fanzines, participant à des collectifs, réalisant de courtes séquences animées, elle propose de nombreux récits sur son Tumblr. Ses histoires, dont on pointera la série Sex Fantasy, explorent l'intimité et l'identité sexuelle avec un ton doux amer et quelques touches oniriques. Au 1er février, date annuelle des Hourly Comics, elle a écrit une histoire conçue heure par heure, relatant à chaque fois ce qui se déroula durant l'heure écoulée. Elle évoque donc les événements et les pensées qui composèrent sa journée, comme les souvenirs d'un rêve au matin, sa consommation de shampoing sous la douche, ses rendez-vous avec ses amis ou encore ses considérations sur son travail et sur ses dessins compulsifs de petits ronds qui doivent, selon elle, découler d'un problème psychologique. Au fil des heures, le lecteur découvrira par petites touches que la jeune femme porte en elle un secret qu'elle dévoilera avec sobriété en conclusion de ce récit. À la fin de son poste, Sophia Foster Dimino place plusieurs liens vers d'autres Orly Comics très réussis, dont celui de l'illustratrice Eleanor Davis, à qui l'on doit la bande dessinée How to be Happy, parue chez Fantagraphics l'an passé. Si j'évoque son nom ici, c'est pour signaler qu'Eleanor Davis ainsi que Zach Sally se sont joints récemment au projet Conversation Gardening initié par Anders Nielsen en juillet 2014. L'auteur de Dogs and Water et de Big Questions, découvrant que le site de vente en ligne Amazon supprimait de son catalogue des ouvrages qui critiquaient les pratiques du géant pour s'assurer une position de monopole, décida de réagir. Il proposa à ses lecteurs d'acheter l'un de ses livres dans une librairie physique ou sur un site indépendant et de lui envoyer le ticket ainsi qu'une question. Anders Nielsen produit alors un dessin répondant à cette question, le publie sur son site et renvoie l'original à son lecteur. Ainsi se poursuit une forme de conversation en réaction à celle qu'Amazon a résolument décidé d'interrompre. Eleanor Davis et Zach Sally, probablement rejoints bientôt par d'autres, proposent donc désormais le même principe à l'achat de l'un de leurs titres et pour un nombre restreint de participants. Et puisqu'il est question d'Anders Nielsen, je terminerai cette capsule en vous signalant son récit On Optimism pour le magazine en ligne Matter dans la série Why 2015 Won't Suck. Les récents attentats de Paris et de Copenhague n'ont hélas pas aidé à susciter cet optimisme. Et si on disait que 2015 commençait à partir du nouvel an chinois? Sawadee kap, les amis.